Europe 1,
le rendez-vous de la présidentielle.
Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la candidate de lutte ouvrière, à l'élection présidentielle. C'est aujourd'hui le dernier jour de la campagne du premier tour. Avant de vous interroger sur l'actualité et bien sûr sur votre programme, question un peu générale, comment sentez-vous le pays à 48 heures du scrutin ?
Vous savez, enfin moi, toute cette campagne, j'ai constaté qu'elle était marquée par une gravité. Une gravité parce qu'elle a démarré avec le Covid, en tout cas, enfin, commencé à sortir de cette pandémie. Ça a été aussi un bouleversement pour des millions de femmes et d'hommes. Ça a été une période très dure. Et puis, finalement, on a basculé immédiatement dans la guerre. Dans la guerre, dans cette angoisse nouvelle. Et finalement, je pense que beaucoup mesurent que vraiment, là, on est dans une société qui n'est plus maîtrisable quelque part. Hein. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. On passe de crise en crise. Et il y a ce sentiment que tout ça, ça dépasse finalement le président de la République. Ça dépasse la question de qui dirige. C'est un problème de système. C'est un problème de système d'une société qui devient complètement folle.
Le baromètre Cevipof établi mercredi a posé la question aux Français. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Et il en ressort une espèce de nuage de mots-clés qui est assez intéressant. Les sentiments dominants sont l'inquiétude, l'incertitude et la fatigue. Les valeurs les moins citées sont le bonheur et l'enthousiasme. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup de confiance, ni de bien-être. Il n'y a pas non plus de colère, de révolte ou d'angoisse. Est-ce que vous pensez que cette hiérarchie des valeurs correspond un peu à ce qui se passe actuellement dans le pays?
Je pense.
Une sorte de déprime résignée un peu.
Mais ce que je sais, c'est que régulièrement, la colère, elle prend le pas sur la résignation, sur l'attentisme, sur la passivité, justement, parce qu'il y a un moment où c'est trop difficile. Et moi, je suis convaincue que vu concrètement ce que vivent des millions de femmes et d'hommes, alors quand on se retrouve quand même à ne pas savoir comment on va faire son plein pour retourner au boulot, on atteint quand même des limites, vous voyez. Et je pense que c'est vrai pour tous ceux qui sont obligés de sauter un repas, qui se retrouvent à devoir chasser les bons promos. Enfin bon, tout ça, c'est tellement indigne dans une société qui regorge de richesses et de possibilités que cela ne peut que déclencher des révoltes, des coups de colère. Moi, je suis précisément là parce que je pense avoir une politique pour que cette révolte, elle se traduise en véritable rapport de force pour enfin apporter un mieux-être, en tout cas la perspective d'augmenter les salaires, de vivre mieux pour le monde du travail.
Alors, vous dites, voilà, effectivement, mais il y a ce prérequis de la colère et de la révolte dans votre
prérequis.
Programme. C'est, voilà, justement, votre programme, Nathalie Arthaud, entrons dans le vif du sujet, vous le dites d'emblée, c'est de renverser le capitalisme. Est-ce que vous croyez que les Français ont envie d'aller aussi loin, finalement? Parce que la révolte, elle est motivée par, certes, la souffrance, par l'envie de gagner mieux sa vie, d'être plus confortable, mais croyez-vous que les Français souhaite la révolution?
Moi, je pense qu'il faut être conscient qu'un système qui n'est guidé que par la soif du profit, que par la rentabilité, que par l'accumulation des capitaux à un pôle, nous mène à la catastrophe. Forcément, c'est ce système-là qui génère cette exploitation folle, de plus en plus dure. Vous savez, quand on est au travail, on mesure que les cadences, les horaires, la discipline, la pression, la charge de travail est de plus en plus dure. Et puis, c'est un système qui nous mène à la catastrophe climatique. Et puis, on le voit avec la guerre, c'est un système qui ne fonctionne qu'avec la guerre. C'est la guerre économique. C'est la guerre économique de tous les instants. Alors, des entreprises les unes contre les autres, mais aussi des pays les uns contre les autres. Ce sont ces rivalités-là. Et je pense que c'est ça qui conduit aux guerres. Aux guerres dont on voit bien que, y compris, elles se rapprochent. La guerre se rapproche de nous. Jusqu'à présent, les guerres, c'était loin. Hein. C'était la Libye, c'était la Syrie, c'était l'Irak, c'était l'Afghanistan, c'était l'Afrique.
Okay. Il y avait toujours une mer, au moins, entre la guerre et nous.
Sauf que voilà. Maintenant, elle se rapproche la guerre et pour moi, véritablement, tout ça, c'est le produit d'un système. D'un système, encore une fois, qui n'est pas du tout organisé pour répondre à nos besoins. Mais voilà, qui n'est guidé que par le fric, toujours le fric.
Mais ceci dit, le système capitaliste, je vous titille un petit peu, mais malgré tout, on n'a pas trouvé mieux pour apporter la prospérité, aussi mal répartie soit-elle, dites-vous. Malgré tout, c'est le système qui a réussi à battre tous ses rivaux en termes de modèle de développement, Nathalie Arthaud.
Sauf que voilà où ce modèle-là nous mène. Et je pense que si, en effet, la société nouvelle, une société supérieure est à inventer, est à construire collectivement, je pense qu'on ne peut que constater que là, on ne va pas vers une ère de prospérité et de paix et de bonheur pour la planète tout entière.
Mais quel système,
on voit bien qu'on atteint des limites. Alors, quel système ? Moi, je pense qu'il faudrait absolument qu'on maîtrise notre système productif, c'est-à-dire qu'on tienne en main ces multinationales qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps sur l'économie, parce que je pense que, toutes les entreprises, on nous dit oui, mais les petites entreprises sont très importantes, certes, mais ceux qui donnent le là et ceux qui, en réalité, orientent tous les choix de la société, ce sont les multinationales. Ça passe bien sûr par le secteur bancaire, par ces multinationales de l'énergie, de l'agroalimentaire, de l'industrie automobile. Et moi, je pense que vu leur poids, vu leur domination, eh bien, on devrait les gérer collectivement.
Mais Nathalie Arthaud, pour poursuivre votre réflexion sur l'aspiration révolutionnaire que vous portez, on pourrait dire une chose, c'est que d'abord, vous portez un programme communiste révolutionnaire. Le communisme, dans l'esprit des Français, c'est un grand échec qui s'est achevé avec la dissolution de l'Union soviétique. Et puis, il y a aussi cette idée qui est porté à l'intérieur du système capitaliste lui-même, que par la réforme, on fait des progrès. Regardez ce que disent les jeunes par rapport au travail, qui disent « moi, je veux que le travail ait du sens ». Les employeurs s'adaptent. On a créé des systèmes de coopératives qui permettent aux salariés de reprendre le contrôle de leurs entreprises. Jadis, il y avait des lois antitrust qui permettaient d'éviter la concentration des entreprises. La réforme, vous pensez qu'elle est vouée à l'échec, Nathalie Arthaud ?
Alors d'abord, je tiens à dire que ce qui s'est passé en Union soviétique n'était en rien, l'idéal d'une société communiste et démocratique. Vous savez, lutte ouvrière, on est précisément un courant trotskiste parce qu'on a toujours combattu la bureaucratie stalinienne, cette dictature qui a plongé en effet bien des peuples dans la terreur. Et parce que pour nous, le système communiste, c'est à la fois l'expropriation des multinationales, mais ça doit être porté par une démocratie de tous les instants, ce qui n'a jamais été en fait réalisé. Donc voilà, pour moi, la société communiste, elle reste à construire. Par ailleurs, vous nous dites, oui, mais le capitalisme peut finalement parvenir à donner du sens au travail. Excusez-moi, mais je ne pense pas. Je crois que ce qui s'est passé, y compris dans les hôpitaux, ce qu'on a vu dans les EHPAD, et ce qu'on voit dans l'éducation, mais ce qu'on voit dans un certain nombre de domaines. Je pense encore, vous savez, à ce qui s'est passé dans l'usine Buitoni, où finalement un certain nombre d'ouvriers, de salariés protestaient, disaient mais on ne doit pas faire les choses comme cela, c'est quand même pas normal de voir des rats, de voir des moisissures, etc. Qui mesuraient qu'ils ne faisaient pas le travail comme il devait être fait. Mais dans combien d'entreprises c'est le cas? Où finalement c'est la rentabilité, il faut maximiser les profits, il faut faire des économies à tous les étages, et finalement même ceux qui voudraient faire leur boulot correctement n'y arrivent pas, n'y arrivent plus. Et ce sont des témoignages qu'on a absolument dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Donc non, je crois que même ceux qui dans cette société peuvent choisir leur métier et ont des métiers de vocation, mais je pense par exemple à tous ceux qui ont contribué à la recherche sur les vaccins. Les vaccins anti-Covid, est-ce que vous croyez qu'ils sont heureux de voir qu'il y a ces brevets qui font obstacle à la diffusion de ces vaccins ? Je ne le pense pas. En tout cas, ce n'est pas leur choix à eux. Leur choix à eux, pour tous ceux qui vouent leur vie à faire avancer la science, eh bien, c'est plutôt que ça serve à l'humanité tout entière. Sauf que voilà, il y a la propriété privée capitaliste qui est là comme un obstacle.
Mais on pourrait vous rétorquer, aurait-on dépossédé les laboratoires de la propriété intellectuelle sur leurs vaccins, Aurait-il continué à faire de la recherche autour de ces mêmes vaccins ? Eux-mêmes ont expliqué qu'il y avait ce problème, on aurait pu donner la formule au monde entier, le monde entier n'aurait pas forcément eu les usines pour les produire, Nathalie Arthaud.
Alors ça, c'est de l'escroquerie, parce qu'on a eu le même laïus sur le traitement contre le VIH. Ah oui, mais ils ne sauraient pas faire. Hein. L'Inde, l'Afrique du Sud ne sauraient pas faire. Ils ont tout à fait su faire, en fait. Hein. Quand on donne les possibilités, mais y compris les techniciens, ils peuvent aller sur place, ils peuvent former, il y a un tas de choses à faire. Non, la vérité, c'est que ceux qui ont découvert, ceux qui ont la poule aux œufs d'or, veulent la conserver pour eux et veulent faire en sorte que, les actionnaires, ils soient bien rémunérés, c'est ça le problème. Alors que
mécanismes d'intéressement, de participation, c'est-à-dire de faire des salariés, des actionnaires de leurs entreprises.
Oh mais ça c'est pareil, c'est une petite musique qu'on nous chante mais depuis des décennies. En réalité quand on est salarié, on vit de son salaire et de son salaire de base d'ailleurs, je tiens à le souligner parce que les primes c'est aussi une façon de... C'est quand même une belle entourloupe hein, parce que ces primes-là, elles peuvent faire passer la pilule hein, du fait que l'augmentation du salaire n'est pas là, mais quand on se retrouve ensuite au chômage ou quand on se retrouve à la retraite, on mesure que tout ça, c'était quand même une belle escroquerie. Il n'y avait pas de cotisation dessus et on se retrouve avec des pensions de retraite qui sont insuffisantes. Donc voilà, non, c'est... Moi, je crois qu'il faut mesurer que le capitalisme, vous savez, ça a été un facteur de progrès et ça a été un moteur, oui, de progrès pendant tout un temps. Mais aujourd'hui, c'est un frein. C'est devenu un frein à la diffusion des connaissances, des découvertes, à la diffusion des moyens que nous avons, qui sont confisqués aujourd'hui, malheureusement, par une minorité. Et il va falloir le dépasser. Moi, je pense qu'en effet, le monde du travail. Moi, je ne dis pas que ils vont s'engager dans avec cette conscience qu'il faut changer toute la société. Mais vous savez, le fait de se battre pour son beefsteak, pour l'amélioration de ses conditions de travail, c'est déjà contester justement cette mainmise, cette course au profit. Et je pense que ça nous mettra, sur la voie d'une remise en cause de l'ensemble de la société.
Pour revenir à Nathalie Arthaud, à l'actualité immédiate, vous avez dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro un des Français. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort de toutes les enquêtes d'opinion. Le pic d'inflation actuel, on le voit très, très concrètement, ça a un effet sur le salaire réel. Il a tendance à baisser depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat?
Parce que le problème, c'est pas un pic, c'est qu'on est en fait dans une spirale même inflationniste, c'est-à-dire que ça va encore monter et ça va se généraliser et on en a sans doute pour plusieurs mois, si ce n'est pour plusieurs années.
Techniquement, on n'y est pas encore.
Pas encore.
On y sera si on augmente les salaires en réponse à l'inflation et que les prix continuent d'augmenter.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand j'entends, il faut augmenter les salaires et il faut les augmenter considérablement de 300, de 400, de 500 euros parce qu'on est en train de s'appauvrir. Parce que les salariés, les travailleurs sont les seuls à ne pas pouvoir faire ce que beaucoup de petits patrons et d'entreprises peuvent faire, c'est-à-dire répercuter leurs charges sur leurs prix. Nous ne pouvons pas le faire. Tous ceux qui vivent de leur salaire, de leur pension de retraite, ne peuvent pas réaliser cela. Donc il faut des augmentations et il faut leur indexation sur les prix. Il faut renouer avec cette revendication-là fondamentale. Quand on est salarié, on ne doit pas accepter de s'appauvrir. On revient à ce qui nous permet effectivement de maintenir notre pouvoir d'achat face à cette flambée de tous les prix. Parce que vous savez, il y a en plus l'inflation mesurée par l'INSEE. Mais l'inflation qui est mesurée dans la vie de tous les jours, dans son caddie, à la pompe à essence, elle est bien supérieure à celle qui est mesurée par l'INSEE. C'est ça la réalité. Donc il faut absolument qu'on sauvegarde, en effet, notre pouvoir d'achat. Ça veut dire l'augmentation générale des salaires, des pensions de retraite et leur indexation.
Nathalie Arthaud, vous êtes l'invitée d'Europe 1 jusqu'à 9h. On marque une courte pause. David Revaud-Allonne nous rejoint dans un instant. Il est 8h28.
Le rendez-vous de la présidentielle, l'événement politique est sur Europe 1.
Un petit coup d'œil sur la météo avant de reprendre l'entretien avec Nathalie Arthaud, avec vous Anissa Dadi. Le fait marquant de cette fin de semaine rapidement, c'est le passage de la tempête Diago, parlons-en.
Oui, cette tempête très active qui arrive là par la Bretagne avec des vents violents à partir de la mi-journée, ça va vraiment souffler très fort. Ces vents vont balayer tout le pays avec 6 départements placés en vigilance orange, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme pour vent fort et attention la Savoie pour avalanche. On attend également en plus de ces vents des pluies très abondantes sur le Limousin, l'Auvergne, les Alpes, la région parisienne, les Hauts-de-France, le Grand Est. Des cumuls importants attendus, des températures toujours très fraîches au nord, très douces sur le sud.
Merci Anissa Dadi, 8h32.
Europe 1. Le rendez-vous de la présidentielle.
Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière à l'élection présidentielle, est l'invitée d'Europe Matin jusqu'à 9h. David Revaud-Dallone, rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche, nous a rejoint. Bonjour David.
Bonjour Dimitri.
À vous l'honneur David.
Nathalie Arthaud, c'est votre troisième candidature, c'est la troisième fois que vous participez à cette mère de toutes les batailles qu'est l'élection présidentielle, mais en fait vous ne visez pas vraiment la présidence, c'est un peu paradoxal. Quand on vous lit, quand on vous entend, on n'a pas vraiment l'impression que la fonction présidentielle est un objectif, mais aussi quelque chose d'efficace et de respectable presque.
Bah, pour le monde du travail, je peux vous dire que rien de significatif n'est venu de l'Élysée. Voilà, tout ce qu'ils ont pu obtenir d'avancées concrètes en matière de salaire, de droit du travail, en matière d'amélioration de leurs conditions de vie, ils l'ont arraché par les luttes collectives.
Voilà, parfois par les urnes.
Grèves, par les... Et pas par les urnes.
Parfois par les urnes.
Non, parce que les urnes ont souvent été, en fait, l'écho des mobilisations et des grèves générales. Vous savez, alors, on parle beaucoup des congés payés, on nous explique que c'est le gouvernement de Léon Blum qui a mis en place les congés payés, mais non, absolument non. Ça a été cette grève générale. Les congés payés n'étaient même pas dans le programme électoral de Léon Blum. Mais par contre, une grève générale après, une ébullition sociale majeure, des occupations d'usines, cela a conduit en effet le patronat à lâcher un certain nombre de choses assez significatives en tout cas, pour que les travailleurs reprennent le boulot.
Mais quel est le sens de votre candidature, Nathalie Arthaud? Je lis précisément dans votre programme, vous dites « Voter pour l'élection présidentielle revient à choisir celui qui, parmi les sous-fifres au service du grand patronat, nous tapera dessus. »
Et oui, et donc il faut absolument qu'il y ait une candidature qui permette aux travailleurs de voter pour leur camp. Une candidature qui exprime cette idée que il va falloir se défendre. Demain, après l'élection, eh bien, on retournera chacun au boulot et on sera confronté aux mêmes règles, à cette même pression permanente pour faire plus de rentabilité, plus... Et on sera confronté à la même politique, au même chantage, à la compétitivité, etc. Il faudra se défendre, il faudra s'organiser. Et moi, toute ma candidature, c'est de dire, les travailleurs ont la capacité de le faire. Ça dépend de leur rassemblement, de leur mobilisation et de leur combativité.
Donc participer à cette campagne, c'est pas du tout viser l'Élysée, c'est juste un moyen de promouvoir vos théories, vos idées et quelque part la révolution.
Je crois qu'une élection permet de s'exprimer, de défendre une politique, de défendre une orientation. Donc oui, moi ma politique, elle est là, elle est dans le fait qu'il faut absolument que le monde du travail se dise, ce sont nos intérêts. Nos intérêts de travailleurs qui doivent passer d'abord et avant tout. Nos salaires doivent passer avant les profits. Nos retraites doivent passer avant les grandes fortunes. Nos conditions de travail, les emplois doivent passer avant les dividendes. Et c'est l'idée de dire, et vous savez, moi je suis une des rares à avoir dit, il faut... En fait, ce qui nous permettrait de vivre, c'est un salaire minimum de 2000 euros. C'est une pension de retraite minimum de 2000 euros. J'ai posé ce chiffre, précisément, qui n'était posé par personne, parce qu'en défendant l'idée qu'on doit nous dire nos besoins. On doit dire nos besoins et nos intérêts. Et on doit dire que la société, elle devrait être organisée d'abord pour cela. D'abord pour satisfaire les conditions de vie de ceux qui portent la société, de ceux qui font les richesses, de ceux qui la font tourner au jour le jour. Voilà comment une société devrait être, devrait être organisée.
Alors cette campagne, elle a connu plusieurs thématiques, plusieurs sujets successifs, il y a eu un petit peu de zapping, mais le thème du pouvoir d'achat, précisément, a quand même été le thème dominant, et notamment de cette fin de campagne. On en a parlé de ce thème, quasiment tous les candidats ont fait des propositions et l'ont évoqué, donc ça veut dire qu'on n'a pas esquivé ce vrai sujet.
Non, on en a parlé, d'accord, mais ce ne sont pas des mots qui vont remplir leur réfrigérateur et qui vont aider à payer le loyer.
Alors, le problème, beaucoup de candidats ont proposé des hausses du SMIC.
Oui, des hausses du SMIC en faisant quoi? En faisant payer le grand patronat, en allant prendre sur les profits? Non. Avec un micmac de baisser des cotisations sociales, c'est-à-dire qu'ils ont du salaire différé, ou alors de faire payer les augmentations de salaire par des impôts. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est censé se payer, nous, nos propres augmentations de salaire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, les véritables augmentations de salaire, c'est les augmentations de salaire qu'on paiera en allant prendre sur les profits. Et vous savez, vous avez parlé de l'inflation tout à l'heure. Eh bien, c'est comme ça qu'on fera peut-être un peu dégonfler l'inflation, justement. Parce que l'inflation, elle est aussi le fruit du fait qu'il y a des milliards et des milliards qui sont en train de s'accumuler à un pôle. Hein, c'est ces espèces de grosses bulles, là, de grandes fortunes, hein, qui d'ailleurs tirent le marché immobilier à la hausse. Parce que pourquoi l'immobilier flambe? Bah, c'est parce qu'à un pôle, bah, y a du fric, en veux-tu, en voilà.
Parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc, et que emprunter coûte peu cher et que naturellement les vendeurs s'alignent puisque l'emprunteur peut emprunter plus.
Emprunter coûte peu cher pour les plus riches, toujours pareil.
Bah hein. Non,
aujourd'hui,
pas vrai.
Vous savez, les grandes banques, elles ont effectivement.
Vous connaissez le taux d'emprunt moyen actuellement en France, Nathalie Arthaud?
Le taux moyen en France,
c'est entre 1,1
parce que,
et 1,2%.
Vous savez, ces moyennes, moi, je me méfie de ces moyennes. Hein, parce que quand on est pauvre et quand on demande, par exemple, hein, de pouvoir payer différé dans les grandes chaînes, je peux vous dire que les crédits revolving, c'est pas ce taux-là. Donc moi, je me méfie des moyennes parce
oui, bien sûr,
voilà,
c'est pas le crédit. Je vous embête un petit peu, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les plus riches qui accèdent à la propriété.
En tout cas, moi,
France,
ce que je peux vous dire, c'est que l'inflation, aujourd'hui, elle n'a pas été créée par l'augmentation des salaires. Elle a été créée précisément par le fait que. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'argent à un pôle de la société. Eh bien, faisons dégonfler cet argent-là, faisons dégonfler toutes ces grandes fortunes en et tous ces profits, ces dividendes, en augmentant les salaires, les pensions de retraite. On pourrait les payer d'ailleurs et pas faire reculer l'âge de la retraite.
Autre question, Nathalie Arthaud. Comment lisez-vous la situation politique de la gauche en France, ou plutôt des gauches, puisqu'évidemment, elles ne sont pas toutes d'accord entre elles. On a eu jusqu'à 8 candidats de gauche alignés sur cette élection présidentielle. Alors, finalement, il y en a 6 qui seront proposés aux électeurs dimanche sur un total de 12 candidats. C'est-à-dire que la moitié des candidats sont de gauche, alors que le cumul de ces voix...
Bah, ça fait moitié-moitié, vous voyez, donc je vois pas ce qu'il y a d'étonnant.
Oui, mais en intention de vote, c'est moins de 30%, cette gauche-là.
D'accord.
Comment vous lisez ça?
Alors, donc moi déjà, clairement, je ne me revendique pas de gauche. Moi, pour moi, mon camp, c'est le camp des travailleurs. Je le dis et je le redis parce que, encore une fois, on veut nous faire croire que finalement, les gouvernements de gauche auraient représenté les intérêts du monde du travail, des plus pauvres. Eh ben, on peut que constater que ce n'est pas le cas. Hein, moi, j'ai quand même encore en tête Hollande qui a fait reculer le code du travail, qui a supprimé des lits dans les hôpitaux, qui a contribué aussi à faire reculer les droits à la retraite, qui a laissé les licenciements et les fermetures d'usines exactement comme la droite. Donc la réalité, c'est que voilà, tous ceux qui gouvernent dans le cadre de ce système où finalement, qui fait la loi ? Qui fait la loi ? Ben, c'est le grand capital qui fait la loi. C'est le grand capital qui impose sa loi, qui impose ses décisions. Et bien finalement, tous les présidents de la République ne sont que la courroie de transmission de leur volonté. C'est ça la réalité. Hein, c'est que au-delà des lois qui sont décidées au Parlement, il y a des lois qui s'appellent la concurrence, la compétitivité, cette guerre économique où de toute façon, qui est toujours celui qui se fait trouer la peau, hein, celui qui est sacrifié, eh bien c'est l'ouvrier en bout de chaîne, hein, l'intérimaire, celui qui arrive au bout de tout ça.
Est-ce que, pour rebondir sur la question de Dimitri, 6 partis de gauche à 30%, vous considérez que certains ne font pas vraiment partie de la gauche? J'imagine que, évidemment, au premier chef, c'est le Parti Socialiste, mais est-ce qu'on pourrait pas...
On ne représente pas les intérêts des travailleurs, c'est ça que j'ai dit.
Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager tout de même que 2 ou 3 de ces candidats se soient rapprochés sur, non pas un programme, mais un minimum commun? Vous avez quand même des accointances avec certains de ces candidats, pas celles du Parti Socialiste peut-être, mais enfin, il y a des points communs.
Alors, que vous disiez ça à Europe Écologie Les Verts, au Parti Socialiste, au Parti Communiste, à la France Insoumise, je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, régulièrement, ils gouvernent ensemble, que ce soit localement, que ce soit à la tête de l'État. Mais encore une fois, nous représentons, nous, une autre perspective. Et cette perspective de ne pas chercher à remettre son sort dans les mains d'un politicien professionnel, d'un président, mais de faire les choses
commun,
nous-mêmes.
Rien à discuter, aucune position commune à adopter.
Je peux vous dire, quand il y a des grèves, quand il y a des mobilisations, on se bat très très souvent ensemble. Bien sûr, ok. Mais moi, je marche pas dans l'idée que votez pour moi, et puis demain, vous aurez plus besoin de vous battre, vous aurez plus besoin de vous organiser. Hein, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, j'ai entendu Fabien Roussel nous expliquer qu'il suffirait de glisser le bon bulletin, hein, pour dire que demain ce sera les jours heureux, qu'il y aura la retraite à 60 ans sans avoir besoin de manifester. Je n'y crois pas une seconde. hein, parce que la réalité, c'est que ça sera un combat. Ça sera un combat. Il faudra l'arracher, tout ça. Mmh. Et ça va dépendre d'un rapport de force. Vous savez, ça, c'est toute l'histoire du monde du travail. Pourquoi il y a autant d'abstention dans les classes populaires? C'est que, précisément, les électeurs des classes populaires ont été baladés de promesses électorales en promesses électorales. Et puis, à chaque fois, déçus et avec un sentiment de trahison. Donc, moi, toute ma politique, c'est de dire, nous pouvons nous faire les choses nous-mêmes. Et quel que soit le président de la République, notre force sera intacte au lendemain du 24 avril. On aura cette capacité de se faire respecter. Mais tout ça, ça va dépendre de notre capacité de nous rassembler et de nous battre.
Nathalie Arthaud, vous êtes l'invitée d'Europe 1 jusqu'à 9h. David Revaud-Allonne, vous restez avec nous. On marque une très courte pause. L'entretien reprend dans un instant.
Le rendez-vous de la présidentielle, l'événement politique est sur Europe 1.
9h moins le quart sur Europe 1, Nathalie Arthaud est l'invitée du rendez-vous de la présidentielle jusqu'à 9h. Nathalie Arthaud, alors j'ai une question de fond pour vous. La France a connu des épisodes de crise assez aigus ces derniers mois. Citons la réforme des retraites, mais évidemment on pense à l'épisode des Gilets jaunes. Et la question que je souhaitais vous poser, c'est comment se fait-il, Nathalie Arthaud, que ce soit les populismes qui rafle la mise à l'aube de cette élection présidentielle, et pourquoi pas la lutte révolutionnaire, malgré ces épisodes sociaux relativement brûlants. Je dis les populismes, en agrégeant évidemment l'ensemble de ces votes qui se disent anti-système et qui font plus de 50% des intentions de vote aujourd'hui.
Écoutez, je peux vous dire que quand les travailleuses, les travailleurs, les petites gens, quand je parle de travailleuses et travailleurs, j'inclus évidemment tous ceux qui galèrent au chômage, en invalidité, à la retraite, pour moi c'est un seul et même camp, hein. Et indépendamment d'ailleurs du type de métier ou de secteur dans lequel vous êtes. Quand ils ont envie de se battre, comme lors des Gilets jaunes, vers qui regardent-ils ? Pas vers l'extrême droite. Voilà. Ils regardent vers ceux qui, en effet, sont dans le camp des travailleurs, qui ont une politique et des idées, des perspectives à leur proposer. C'est ça, quand dans une entreprise, les salariés, les ouvriers ont envie de se battre, c'est vers nous. Vers nous qu'ils regardent, vers les militants de la classe ouvrière qu'ils regardent.
Mais pour des luttes syndicales, pour des luttes catégorielles.
Maintenant, quand c'est pas seulement pour des luttes catégorielles.
Parce que ça, c'est aussi quelque chose que vous déplorez. Vous dites les travailleurs savent s'unir quand pour des augmentations de salaire ponctuelles dans leur entreprise, mais il n'y a pas de plan de combat. Je reprends les mots que vous
écrivez.
Oui,
mais ça peut venir, justement. Mais par contre, quand tu es dans un contexte électoral, c'est une toute autre musique. Hein, parce que là, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que le jeu, c'est quoi ? C'est de choisir le politicien crédible,
oui.
Hein, c'est quand même mieux.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, le sous-fifre, c'est le mot que vous employez
un
aussi.
Un politicien, et de s'en remettre à lui, c'est d'aller choisir un sauveur suprême. Donc, c'est exactement l'opposé de ce que moi, je représente, si vous voulez.
Oui, mais
donc,
dans l'histoire de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud...
Ce que je veux dire par là, c'est votre question, c'était pourquoi dans les luttes et pourquoi dans l'élection, finalement, ça part dans tous les sens, voire à l'opposé des intérêts du monde du travail. C'est parce
que
précisément...
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit comment se fait-il que les électeurs spontanément se tournent vers des candidats, on va dire, de tendance populiste, qu'ils soient de gauche ou de droite, plutôt que vers un discours révolutionnaire comme vous le portez, si les gens sont aussi désespérés que vous le dites.
Le jeu électoral consiste à s'en remettre à qui ? À celui qui sera le plus démagogue, en résumé. Voilà, c'est ça le jeu électoral. Et moi, je pense qu'en effet, c'est la raison pour laquelle je pense d'ailleurs que le monde du travail ne peut pas être fort dans les urnes, ne peut pas montrer sa force et véritablement ses intérêts dans les urnes.
C'est un aveu d'échec terrible que vous nous faites là.
Mais non, parce que dans les luttes collectives, lorsque les femmes et les hommes cherchent des solutions par en bas, là ils font avancer leur sort véritablement. C'est pas un aveu d'échec, ça c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier. L'histoire du mouvement ouvrier, c'est quelles ont été les belles victoires ? Les belles victoires, ça a été précisément ces moments de lutte sociale intense et forte. Ça a été 36, ça a été mai 68, quand des millions de femmes et d'hommes se sont retrouvés à dire, voilà où sont nos intérêts. Et on se bat, et on agit avec notre force, qui est celle des travailleurs, c'est-à-dire on peut bloquer, nous, les profits, on peut bloquer la production, on peut bloquer les usines, et on peut même faire mieux, c'est-à-dire qu'on pourrait en fait les faire fonctionner pour nous. On pourrait les faire tourner à notre bénéfice.
Mais c'était pas ça, les gilets jaunes. C'était une révolte consumériste. Mais c'était les gens qui voulaient pouvoir consommer normalement, avoir assez d'argent pour mettre une piscine dans leur jardin. Pardonnez-moi, mais c'est une révolte interne au capitalisme.
Ils en étaient pas à la piscine. Ils en étaient pas à la piscine. Ils en étaient juste à remplir leur frigo et à payer leur loyer et à avoir un logement correct et à pouvoir se chauffer. Et d'ailleurs, ils en sont toujours au même point aujourd'hui. Donc oui, demain, on peut voir à nouveau une mobilisation de type gilets jaunes. Moi, je me battrai pour que cette contestation, elle s'invite aussi dans les entreprises. Parce que ça a été ça, finalement, la limite des gilets jaunes. D'ailleurs, elle n'est pas de leur responsabilité à eux, mais elle est simplement du fait que cette contestation ne s'est pas étendue et n'est pas allée au cœur même du système, là où on aurait pu inverser les choses et où on aurait pu s'en prendre au profit.
Mais
et on aurait pu
Nathalie
dire,
Arthaud,
ces profits-là, ils doivent servir à tous.
Il y a eu beaucoup de mouvements, vous les évoquiez, mouvements sociaux ces dernières années, sous le quinquennat de François Hollande, le mouvement contre la loi travail, vous évoquiez les gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites sous ce quinquennat.
Il y en a à chaque
Il y a matière à capitaliser pour le mouvement ouvrier, comme vous dites, mais enfin, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ça veut dire que beaucoup de révoltes ne font pas forcément une révolution.
Ah, ça, je vous confirme. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait des militants révolutionnaires dans chaque révolte. C'est-à-dire qu'il faut que dans chaque révolte, il y ait suffisamment de femmes et d'hommes qui aient des idées sur justement contre qui se tourner, quoi revendiquer, comment s'organiser pour aller le plus loin possible dans le combat.
Et que ce soit pas seulement
un coup d'épée dans l'eau.
Non,
pour l'instant, non. Mais vous savez, chaque élection et chaque quinquennat, en général, démoralise le monde du travail et les classes populaires parce que ça les laisse dans leur galère. Donc, encore une fois, je peux vous dire que le bilan des luttes collectives est bien plus important et bien plus riche que n'importe quel processus électoral. Donc, non, il faut réaliser que, voilà, on a cette force-là. Et réaliser que, avoir cette fierté-là, cette fierté de dire, bah, finalement, le monde du travail, il fait tout dans cette société, il est à la base de tout. Hein, c'est nous qui réalisons les miracles au quotidien de faire tourner cette société malgré tous les obstacles, malgré toutes les entraves qu'il peut y avoir. Eh bien, voilà, il faut être fier de nos revendications, fier de ce qu'on est et conscient que finalement, on peut faire les choses nous-mêmes. Moi, cette campagne, je l'ai faite pas seulement en disant, on doit se battre sur l'augmentation des salaires, des pensions de retraite, la répartition du travail pour qu'il y ait zéro chômeur, mais aussi avec cette conscience que les travailleurs, ils la dirigeraient mieux, cette société. Ils seraient capables de prendre les décisions qui donne des solutions et des perspectives. Moi, je l'ai dit par rapport au scandale McKinsey. Les véritables experts, ce sont les soignants dans les hôpitaux, ce sont les profs dans les écoles, ce sont les ouvriers dans les usines de l'agroalimentaire. C'est eux qui savent comment faire le boulot et comment le faire bien. Le faire bien pour qu'ils répondent vraiment aux besoins. Pas pour faire 10% de rentabilité, mais ils savent comment faire bien le boulot pour qu'ils répondent aux besoins de tous. Et c'est ça, la supériorité du monde du travail. S'ils dirigeaient les entreprises et les multinationales, eh bien, on saurait les faire tourner, oui, pour que, enfin, ces possibilités-là soient mises au service de tous.
Nathalie Arthaud, on se rappelle qu'il y a 20 ans, Arlette Laguiller, votre prédécesseur en tant que chef de file de lutte ouvrière, réalisait un score impressionnant, 5,72% à l'époque. Rétrospectivement, comment vous analysez ce succès qui date d'il y a maintenant deux décennies, qui avait permis à Lutte Ouvrière de se faire rembourser notamment ses frais de campagne, titre anecdotique, hein, bien sûr.
Oui.
Mais qu'en réalité, les scores de Lutte Ouvrière depuis, c'est un dixième de cette performance électorale-là.
Non, mais comment ça s'explique? Les scores électoraux, c'est exactement comme les luttes, les luttes collectives, ça va et ça vient. Voilà. Mais encore une fois, nous, notre confiance...
Ça vient plus que ça ne va, en l'occurrence depuis 20 ans.
Ah, mais détrompez-vous. Vous savez, on a tous été surpris par le mouvement des Gilets jaunes, hein, vous comme moi. Et je pense que tout ça, oui, ça peut revenir. Et ce qu'il faut, ce sont des perspectives. Et vous savez, nous sommes à contre-courant. Oui, je suis à contre-courant, lutte ouvrière, et la candidature que je porte est à contre-courant. Mais je peux vous dire que j'en suis fière. Je suis fière parce que je suis à contre-courant de quoi ? De quoi ? Eh bien, je suis à contre-courant de l'individualisme, du carriérisme, je suis à contre-courant de ces grandes fortunes qui riment à rien, je suis à contre-courant du nationalisme, je suis à contre-courant du racisme, des guerres, oui, je suis à contre-courant et je le revendique. Et je pense que c'est précisément parce que, voilà, cette société, c'est pas l'avenir. Ça peut pas être l'avenir ni des travailleurs en France et ni l'avenir du monde. Donc je suis fière de porter cela et de porter cette idée que forcément, à un moment donné, il y aura des révoltes parce qu'on ne pourra pas accepter cette misère, pas accepter ces inégalités, pas accepter ce gâchis. Parce que moi, je suis fondamentalement optimiste. Je pense que la société, elle recèle des possibilités, mais fantastiques, pour soigner tout le monde, pour loger tout le monde, pour nourrir le monde entier. Et c'est cela qu'il faut changer. Donc, voilà, moi, je suis fière de porter, oui, des perspectives pour changer complètement le monde.
Alors, Dimitri évoquait la candidature d'Arlette Laguillier en 2002. On a toujours eu à l'élection présidentielle française deux voire trois candidats d'obédience trotskiste. Je crois que c'était le cas d'ailleurs en 2002 de mémoire. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait pas, alors si vous n'envisagez aucun rapprochement avec les autres candidats de gauche, que enfin vous l'excluez totalement, est-ce que ça aurait pas un sens quand même de discuter un petit peu avec l'autre candidat de cette obédience et envisager un rapprochement?
Sur le terrain électoral, de l'efficacité électorale, non. Non, parce que de toute façon, même, vous savez, une candidature commune avec Philippe Poutou ne permettrait ni à l'un ni à l'autre d'arriver au pouvoir. Ça n'aurait pas de sens, mis à part de finalement de nous censurer l'un et l'autre. Voilà, donc ça n'a absolument aucun sens. Non, dans une élection, eh bien, il faut que les courants ils puissent se faire entendre. Et c'est vrai que Lutte ouvrière a cette particularité-là, hein, que d'insister sur le rôle du monde du travail, hein, d'insister sur le fait que finalement, ce sont ceux qui sont au cœur de la production qui peuvent finalement engager la société sur une autre voie. Donc, je pense qu'il faut que tous ceux qui sont convaincus de cela puissent aussi le faire entendre dans l'élection dimanche prochain. Moi, j'ai envie de leur dire, y compris à ceux qui s'abstiennent, hein, parce qu'ils n'ont aucune illusion dans cette mascarade électorale, ils pensent que tout est joué, etc. Et que surtout, le problème, il ne se pose pas à ce niveau-là. Tous ceux qui sont convaincus que c'est un problème, c'est le problème du capitalisme, moi, je leur dis, restez pas muets. Ne restez pas invisibles politiquement. Dites-le, puisqu'il y a ce vote qui est possible, ce vote, pour, en effet, changer ce système et pour que les travailleurs soient au pouvoir. Eh bien, dites-le avec nous, dans le vote et puis après, parce que pour nous, c'est pas seulement un vote. Vous savez, moi, lundi matin, j'apporterai mon soutien à des grévistes à Air France, hein, à Roissy. Donc le combat, bien sûr, il continuera plus que jamais.
Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'être venue nous voir. J'allais vous poser une question sur l'abstention, mais vous avez répondu avant même que je vous pose la question. Merci à vous. Merci. Excellente journée à vous sur Europe 1. Merci beaucoup.
Merci.
David Revaud-Dallon d'avoir été avec nous.